Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avait donné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes au chapitre 4 de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 24, versets 27 à 30, en bas de la page 48 ou en haut de la page 49 selon les polycopies que vous avez. Donc, toujours dans le même polycopier, c'est le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église sur les cinq premiers chapitres de Saint Jean. Donc, au chapitre 4, verset 27, nous en sommes à la fin de cette importante partie de l'Évangile concernant la Samaritaine. Jésus qui se dévoile à la Samaritaine, qui lui dit qu'il est le Messie. « Je le suis, moi qui vous parle. » La femme lui dit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Il nous annoncera alors toutes choses. Et notre Seigneur va lui dire, je suis le Messie, moi qui vous parle. Vous savez, je vous l'ai expliqué la dernière fois, que cette femme a laissé un nom dans la tradition. On l'appelle Sainte Photine. Donc elle est célébrée au martyrologe romain au 20 mars. On l'appelle la femme samaritaine ou Sainte Photine. Donc voici les versets que nous allons commenter maintenant, 4 versets, 27, 28, 29 et 30 du chapitre 4. Au même instant, ses disciples arrivèrent, ils s'étonnaient de ce qu'il parlait avec une femme. Cependant, aucun ne lui dit « Que demandez-vous » ou « Pourquoi parlez-vous avec elle ?» La femme laissa donc là sa cruche et s'en alla dans la ville, et elle dit aux gens « Venez et voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent auprès de lui. Donc on voit d'abord la vertu d'humilité. La vertu de foi, la vertu d'humilité chez cette Samaritaine. Elle ne cherche pas à cacher qu'elle est une pécheresse. Voyez, cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait, sous-entendu, mais tout ce que j'ai fait de mal. Et tout de suite, elle devine donc qu'il est le Christ. C'est même un peu étonnant qu'elle dise « Ne serait-ce pas le Christ ?» alors que le Christ vient de lui révéler qu'il était le Messie. Mais elle a encore une foi faible. Elle va augmenter sa foi et devenir une grande sainte. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église dans ses commentaires, donc en haut de la page 49. La femme, alors, laissant là sa cruche, s'en alla dans la ville. Donc elle oublie les choses secondaires pour aller s'occuper des choses importantes. Elle a trouvé la vérité. Et que cherche une personne qui a trouvé la vérité? De communiquer la vérité. On voit très bien chez Sainte Photine ce désir de transmettre ce qu'elle vient de découvrir. Oui. Elle oublie les soins du corps, la bassesse apparente de l'office qu'elle remplissait, savoir chercher de l'eau, et ne voit que l'utilité du plus grand nombre. Donc elle va voir les gens de la ville, les appelle, et leur dit, ne serait-ce pas le Christ que j'ai rencontré? Donc ils sortent à sa suite et vinrent auprès de lui. On voit très bien ici, chez cette femme, ce désir de faire partager cette connaissance de la vérité qu'elle vient d'avoir. Notre Seigneur vient de lui dire qu'il était le Messie. Tout de suite, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Elle va communiquer sa découverte à ceux qui l'entourent. C'est un rôle extrêmement important. Il ne s'agit pas simplement de découvrir la vérité, il faut communiquer la vérité. Il y a un devoir grave de communiquer la vérité. Je vous l'ai souvent déjà dit, je pense que c'est la raison de la crise terrible que nous passons aujourd'hui. Cette raison, il faut aller la rechercher assez loin en arrière, juste après la Deuxième Guerre mondiale, la fin du règne de Pie XII, et puis avec l'arrivée des modernistes après la mort du pape Pie XII en 1958, les catholiques n'ont plus cherché à transmettre. d'abord à leurs enfants et ensuite aux gens autour d'eux. Ils avaient la foi, mais se contentaient de la garder pour eux. Si j'ai trouvé un trésor extraordinaire, je n'ai pas regardé ce trésor pour moi. Imaginez, je prends toujours cet exemple pour expliquer, je me suis dit de le répéter un peu, mais il faut que ça rentre. Imaginez qu'un pays soit en train de combattre une maladie épouvantable qui tue, et qu'un médecin ait découvert un médicament extraordinaire qui soigne cette maladie. Eh bien, qu'est-ce que va faire ce médecin? Eh bien, il doit évidemment mettre ce médicament miracle qu'il a découvert à la disposition de tous les gens qui sont autour de lui pour soigner tous les gens. Imaginez un médecin qui se dise, bon, j'ai découvert un médicament qui soigne cette maladie qui frappe tant les habitants du pays, donc je me contente de garder ce médicament pour moi. Je le prends pour être protégé et je cherche pas du tout à protéger les gens, je protège moi-même, les gens de ma famille, et en dehors de ça, je m'en occupe pas. Mais cet homme serait un assassin, une espèce d'égoïsme. On voit très bien ici chez Sainte Faustine, la Samaritaine, qu'elle cherche immédiatement à transmettre ce qu'elle a découvert. Aussi, nous aussi, devons-nous, disent les Pères, oublier et sacrifier nos intérêts corporels pour nous efforcer de communiquer aux autres les biens que nous avons reçus. Donc, elle s'occupait du matériel, à savoir aller chercher de l'eau dans sa cruche. Elle découvre les choses spirituelles. Elle découvre que notre Seigneur Jésus-Christ lui donne une eau salutaire, spirituelle, bien supérieure à celle qu'elle était venue chercher dans sa cruche. Et donc, elle lâche tout pour venir s'occuper des choses importantes. Vous voyez ? Je crois que c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Il faut savoir laisser tomber les choses secondaires pour s'occuper des choses importantes. C'est comme ça qu'on lutte contre la révolution. L'esprit révolutionnaire, c'est quoi? L'esprit révolutionnaire consiste à remplir notre âme des choses secondaires pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses importantes. L'esprit contre-révolutionnaire consiste à vider notre âme des choses secondaires pour faire de la place pour les choses importantes. Alors, voyons un petit peu le sens de ces mots. Donc elle laisse là sa cruche, c'est le verset 28. La femme laissa donc là sa cruche et s'en alla dans la ville. Elle laisse sa cruche, cette cruche, disent les pères, signifie la convoitise avec laquelle l'homme puise la volonté charnelle des profondeurs ténébreuses du cœur, comme d'un puits obscur, c'est-à-dire de la vie, de la terre et des sens. Donc elle était tout occupée d'aller puiser de l'eau dans un puits noir, un puits obscur, un puits profond qui représente la terre et les sens. Pourquoi? Parce que le puits descend dans les profondeurs de la terre. Il y a une obscurité dans un puits. Le puits est profond, on voit rien, on voit même pas l'eau qui est au fond du puits. Et donc cette femme qui s'occupait de puiser de l'eau représente des personnes qui ne sont préoccupées que des choses charnelles, que des choses matérielles. Et dès lors qu'elle croit en Jésus-Christ, qu'elle comprend que notre Seigneur Jésus-Christ qui lui parle est le Messie, dès lors qu'elle croit en Jésus-Christ, elle renonce au monde. En laissant son urne, sa cruche, elle montre qu'elle renonce à la convoitise du monde. On voit très bien. Elle laisse là sa cruche, dit le verset 28. Elle laisse là sa cruche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle abandonne les choses secondaires dont elle s'est préoccupée tant pour venir s'occuper des choses importantes. Donc elle va laisser tomber les choses charnelles pour s'occuper des choses spirituelles. Elle s'occupait des choses corporelles, ne prenait soin que de son corps pour plaire aux différents hommes avec lesquels elle vivait. Rappelez-vous qu'elle avait eu 5 maris et que l'homme avec lequel elle vivait n'était pas son mari mais son concubin. Eh bien, elle va laisser tomber tout ça pour venir s'occuper des choses importantes. Donc, elle laisse de côté le corps pour venir s'occuper de l'âme. Plus exactement, elle fait passer l'âme avant le corps. C'est le drame d'aujourd'hui. Les gens, pour sauver leur corps, vont perdre leur âme. On le voit très bien dans cette pandémie qui n'en est pas une, cette dictature médicale à propos de ce soi-disant virus qui tuerait d'après certaines autorités tout le monde, qui en fait tue pas grand monde, c'est une grippe. Eh bien, on le voit très bien comment les gens, tout simplement pour s'occuper de leur corps, vendent leur âme. Pourquoi est-ce que les gens, les hommes modernes se précipitent en France, c'est très net, vers ce soi-disant vaccin qui n'est qu'une thérapie génique? Pourtant, les choses sont pas encore au point, il y a des conséquences secondaires énormes, très graves, mais tout le monde se précipite pour se faire recevoir cette thérapie génique. Pourquoi ils le font? pour pas être mal, mais pas du tout. Ils le font pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir aller boire un verre avec les copains et s'éclater le vendredi soir dans une boîte de nuit. Voilà pourquoi ils le font. Et donc ils font passer leur corps, pour sauver leur corps, ils vendent leur âme. Et pour ça, cette phrase est importante. Dès lors que cette femme croit en Jésus-Christ, et dès lors que nous croyons en Jésus-Christ, que nous découvrons notre Seigneur Jésus-Christ, il faut renoncer au monde et laisser là notre urne, montrer qu'on renonce à la convoitise du monde. Donc, on n'utilise plus cette urne, cette cruche pour aller puiser dans les profondeurs du puits obscur, c'est-à-dire dans les profondeurs des voluptés charnelles. On laisse là tout ça pour aller s'occuper des choses spirituelles. Donc, elle s'est dépouillée de sa convoitise pour être plus libre d'annoncer, de prêcher la vérité. Elle apprend ainsi à tous ceux qui veulent annoncer l'évangile à laisser d'abord près du puits l'urne de la convoitise. Et lorsque je veux servir notre Seigneur Jésus-Christ, je suis obligé de laisser tomber certaines choses. On ne peut pas se mettre au service de notre Seigneur Jésus-Christ et en même temps se préoccuper des choses de ce monde à longueur de journée. On est bien obligé de faire un choix. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir à la fois les choses charnelles et les choses spirituelles. On ne peut pas à la fois servir le Dieu des choses charnelles et le Dieu des choses spirituelles. Nul ne peut aller au ciel en gardant l'esprit du monde. C'est clair et net. Et là, on le voit très bien. Ça, cette phrase est importante, je la répète. Il faut se dépouiller de nos convoitises. La convoitise, c'est quoi? Ce sont les trois concupiscences. Il faut donc se dépouiller des concupiscences des yeux, de la chair, de l'orgueil, pour être plus libre d'annoncer, de prêcher la vérité et d'apprendre donc à ceux qui veulent annoncer l'évangile à laisser d'abord près du puits l'urne de la convoitise. Donc j'abandonne les trois concupiscences. À la place de ces trois concupiscences que je laisse sur la margelle du puits de la convoitise, je laisse ces trois concupiscences et à la place, je prends sur mon dos, si vous voulez, les trois vertus qui s'opposent à ces concupiscences. Je prends avec moi la vertu de pauvreté, la vertu de chasteté, la vertu d'obéissance. La vertu de pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux, la vertu de chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair, et la vertu d'obéissance pour lutter contre la concupiscence de l'orgueil. Voyez? Et on ne peut pas accéder à ces vertus, on ne peut pas trouver ces vertus, on ne peut pas mettre dans son cœur ces trois vertus morales, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, sans d'abord se décharger des choses qui encombrent mon âme. Donc je dois, j'aime beaucoup cette expression, déposer sur la margelle du puits l'urne de la convoitise. Et à ce moment-là, mon cœur va s'ouvrir. Et je vais pouvoir pratiquer non seulement ces trois vertus, mais pratiquer aussi ces trois secrets extraordinaires que les anciens pratiquaient avec un grand, grand zèle. À savoir le jeûne, l'aumône, la prière. On retrouve les mêmes idées. Le jeûne contre la concupiscence de la chair, l'aumône contre la concupiscence des yeux et la prière contre la concupiscence de l'orgueil. Et c'est ce qui permet la conversion de Sainte Faustine. Cette Samaritaine ne se serait pas convertie si elle n'avait pas d'abord abandonné au puits les choses qui s'opposent à l'introduction de la vérité dans son âme. On n'est pas libre donc d'annoncer et de prêcher la vérité sans déposer d'abord auprès du puits l'urne de la convoitise, c'est-à-dire l'urne des choses du monde. Notre Seigneur n'a pas prié pour le monde. Vous voyez, c'est le drame du monde moderne. On le voit très bien dans le monde moderne, où le monde moderne cherche, si vous voulez, à couvrir les cœurs de nos enfants de choses matérielles, pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses spirituelles. On remplit le cœur de nos enfants, surtout par la civilisation des écrans, on les remplit de choses qui clinquantes, de choses brillantes, de choses extérieures, de choses superficielles, pour être sûr que l'enfant ne prendra pas le temps de s'occuper des choses spirituelles. Un enfant est parfaitement capable de prier, un enfant est parfaitement capable d'ouvrir son cœur à la grâce. Avec la grâce du bon Dieu, tout est possible. Pourquoi que les enfants ne sont pas capables de ça? Ils sont parfaitement capables de s'ouvrir à la grâce. Mais comment voulez-vous qu'un enfant qui passe 5 heures par jour à jouer avec un petit jeu stupide de vidéo ou à s'amuser avec son ordinateur de poche ou avec son téléphone portable, parce que souvent ils ont un téléphone portable dès le plus jeune âge, comment voulez-vous qu'il ait le temps de s'occuper des choses superficielles, des choses importantes? La superficialité empêche d'aller dans la profondeur. Vous voyez, il y a un choix, ou notre Seigneur Jésus-Christ, ou le monde. Un autre texte, cette fois-ci, le premier était de saint Augustin, le deuxième est d'Origène. Aussitôt qu'elle a ouvert son cœur à la véritable sagesse, elle a découvert le Messie, elle fait peu de cas de tout ce qu'elle aimait, auparavant se hâte de s'en dépouiller. Rappelez-vous, les rois mages, une fois qu'ils ont découvert notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont fait l'or, l'encens et la myrrhe, ils doivent rentrer chez eux par un autre chemin. Et bien ici, on voit très bien que Photine va prendre un autre chemin. Elle était superficielle, elle était mondaine, elle vivait dans le concubinage. Elle trouve notre Seigneur Jésus-Christ, elle a ouvert son cœur à la véritable sagesse. Immédiatement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dépouille de tous ses oripeaux du passé pour se couvrir de l'état de grâce. Donc elle va changer de vêtements. Changer de vêtements, de mondaine qu'elle était, elle va devenir spirituelle. Elle était tout en superficialité, elle va devenir une femme profonde, une femme honnête et donc une sainte. Pour nous, c'est la même chose, hein. Oui, je pense que ces deux phrases s'appliquent toutes à chacun d'entre nous. Bon, pour être libre, nous aussi, on doit annoncer, prêcher la vérité, à commencer par les gens dont nous avons la charge. Il nous faut prêcher, annoncer la vérité à nos enfants, par exemple, pour ceux qui sont mariés, qui ont des enfants. Et pour cela, première condition, nous dit saint Augustin, il faut laisser au bord du puits l'urne de la convoitise. Si je garde dans mon cœur les concupiscences des yeux, parce que je veux tout posséder, concupiscences de la chair, parce que je suis attiré par tous les péchés d'impureté et l'orgueil, je peux rien transmettre. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je me dépouille de ces concupiscences, dit Origène, pour pouvoir commencer à aimer et surtout faire aimer la véritable sagesse. Ouvrir mon cœur à la véritable sagesse et aider les gens dont j'ai la charge à se dépouiller des choses mondaines pour ouvrir leur propre cœur à la sagesse. Donc celle qui était venue pour chercher de l'eau reviendra avec la modestie. Car dès que le Seigneur lui parla de ses péchés, elle les reconnut et les confessa, annonçant que le Christ était le Sauveur. Donc on voit très bien l'humilité chez Sainte Photine. C'est parce qu'il y a cette humilité que notre Seigneur Jésus-Christ lui donne la grâce. On le voit très bien dans tous les miracles. Je prêche, je donne cette conférence le 23 janvier et à la messe ce matin, l'évangile donc du troisième dimanche après l'Épiphanie, c'était la fête du jour. Eh bien, il y a cette histoire du lépreux qui est guéri. Et du centurion qui vient demander la guérison de son serviteur qui est malade, qui est paralysé. Vous voyez ? Et on voit que notre Seigneur Jésus-Christ répond à cette demande parce qu'il voit un grand, grand désir à la fois chez ce lépreux qui vient demander la guérison, chez ce païen centurion qui vient demander la guérison non pas pour lui mais pour son enfant, pour son serviteur, et qui obtiennent tous les deux, ils vont obtenir de Dieu ce miracle justement parce qu'ils ont un grand désir dans la vertu d'humilité. La première chose qu'il faut, c'est l'humilité et la confiance. L'humilité sans confiance, on n'obtient rien. Confiance sans humilité, on n'obtient rien non plus. Il faut humilité plus la confiance. Et à ce moment-là, notre cœur s'ouvre à la grâce. On ouvre les portes de notre âme et notre Seigneur Jésus-Christ peut rentrer dans notre âme pour nous donner les grâces dont nous avons besoin. Et donc, qu'est-ce que fait Sainte Photine? Dès que notre Seigneur lui parle de ses péchés, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas allé de même ordre, hein, il lui a dit d'entrer ses péchés. Oui, l'âme avec laquelle vous vivez n'est pas votre mari. Et vous en avez eu 5 de mari. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mari en trop, ça. Eh bien, allez me chercher cet homme. Et tout de suite, elle se laisse faire par la grâce. Ce qui est extraordinaire chez cette sainte Photine, c'est qu'elle laisse la grâce du bon Dieu rentrer en elle. Pourtant, elle sait très bien les conséquences de ce qui va se passer. Et elle comprend très bien les conséquences du fait que notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans son âme. Il va falloir qu'elle change de vie, il va falloir qu'elle sorte du concubinage. Vous voyez ? Donc il faut faire la même chose. Il y a beaucoup de fidèles qui sont parfois dans une situation matrimoniale tout à fait immorale parce qu'ils vivent avec la femme du voisin, parce qu'ils ont été entre guillemets mariés deux fois. Bon, nous avons parfois des cas très très douloureux. Il faut beaucoup de force, mais Dieu donne la force. Il y a parfois des gens qui viennent chez nous, ça arrive, hein, des gens entre autres qui viennent chez nous, qui viennent de la fraternité Saint-Pédis. Dans la fraternité Saint-Pédis, ils acceptent les annulations de mariage, au moins certaines d'entre elles. Alors que l'Église a toujours refuser d'accepter les annulations de mariage, sauf cas exceptionnel pour des mariages non consommés. Bon. Mais pour un mariage ratifié consommé, aucune puissance au ciel et sur la terre a le pouvoir d'annuler un mariage de ce genre. Et donc, ça arrive des gens qui viennent de bonne foi chez nous, commencent à venir à la messe chez nous, puis on commence à discuter avec eux, et on discute qu'en fait, ils ont déjà été mariés deux fois. Une première fois, avec un mariage légitime. Ils sont mariés avec l'intention d'avoir des enfants, garder l'unité, l'indissolubilité, puis le mariage malheureusement a mal fonctionné, ils se sont séparés, et après ils se sont entre guillemets remariés dans la tradition de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui a accepté une annulation de mariage, qui était une gigantesque fumisterie, ils se sont entre guillemets remariés, et après ils veulent venir recevoir les sacrements chez nous. On ne peut pas leur donner les sacrements, c'est impossible. Je suis obligé de leur dire, écoutez, vous voulez venir à la messe ici, je n'ai pas le pouvoir de vous l'empêcher, au contraire, je suis content de venir à la messe, mais vous devez comprendre que si vous venez à la messe ici, pour pouvoir utiliser les sacrements, pour pouvoir communier et pouvoir vous confesser, il faut sortir du péché. Donc il faut quitter cette femme avec laquelle vous vivez, qui n'est pas votre épouse légitime, puisque vous êtes déjà marié légitimement une première fois. On ne peut pas se marier deux fois, puisqu'il y a une indissolubilité dans le mariage chrétien. Et vous croirez si vous voulez, mais j'ai eu plusieurs cas de gens qui ont eu le courage de prendre les moyens qu'il fallait pour ou quitter la femme avec laquelle ils vivaient, qui était l'épouse du voisin, ou dans certains cas commencer sérieusement, je dis bien sérieusement, à vivre comme frère et sœur, c'est-à-dire on vit dans deux chambres différentes, ce qui est possible relativement facilement quand il n'y a pas d'enfants, plus compliqué quand il y a des enfants, mais à ce moment-là, ces personnes peuvent recevoir les sacrements, et j'ai vu des personnes qui ont été admirables, qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup de force, de volonté, et de grâce du bon Dieu pour aider quelqu'un qui vit dans concubinage depuis 10 ans, avec la bénédiction des prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui comprennent finalement que on s'est moqué d'eux dans la fraternité et qu'en fait ils vivent dans concubinage parce qu'ils sont déjà mariés avec une première épouse qui est toujours vivante, donc le mariage étant indissoluble, ils sont mariés jusqu'à la mort de cette épouse, et qui ont le courage de prendre les décisions qui s'imposent pour commencer à vivre comme frères et sœurs, ou voire même se séparer complètement. Et souvent ce sont des gens d'un certain âge, parce qu'évidemment pour les gens très jeunes c'est très difficile, voire même impossible. J'avoue que j'ai type de jeune de 25 ans me disait, voilà monsieur l'abbé, on est marié déjà deux fois, on est marié deux fois, on a décidé de vivre comme frère et sœur à 25 ans. Je dirais non, c'est pas possible. Moi je peux pas croire qu'à 25 ans vous soyez suffisamment fort pour vivre comme frère et sœur avec cette personne qui n'est pas votre épouse. Par contre, quand les gens ont la cinquantaine, 60 ans, 70 ans, c'est déjà plus facilement possible avec la grâce du bon Dieu. Donc la conversion de Sainte Faustine est un exemple extraordinaire pour nous, parce que c'est quelqu'un qui vivait vraiment dans le péché, et pas le petit péché, le péché de fornication, le péché d'adultère, et pas simplement une seule fois, c'est une personne qui avait eu plusieurs amants, plusieurs concubins, 4 ou 5 maris, on peut supposer que le premier était légitime, donc il y en a eu 5 plus 1 avec lesquels elle vivait, ça fait 6 personnes, elle a eu 6 mariages, un premier ou 6 unions, si vous voulez, la première union étant légitime, les 5 qui suivaient sont des fausses unions. Qu'est-ce que demande notre Seigneur Jésus-Christ? L'homme avec lequel vous vivez n'est pas votre mari. Sous-entendu, vous devez arrêter. Et c'est ce que va dire notre Seigneur Jésus-Christ aussi, non seulement à la Samaritaine, mais aussi à Sainte Marie-Madeleine, allez, ne péchez plus. Et ces grandes pécheresses, Sainte Marie-Madeleine, c'est la même chose, qui étaient des grands pécheurs, se sont convertis, sont venus des grandes saintes. Donc tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Donc je répète cette phrase d'Origène qu'il faut vraiment méditer. Aussitôt qu'elle a ouvert son cœur à la véritable sagesse, elle fait peu de cas de tout ce qu'elle aimait auparavant et se hâte de s'en dépouiller. Ici vous avez plusieurs autres phrases des pères. Celle qui était venue pour chercher de l'eau reviendra avec la modestie, car dès que le Seigneur lui parla de ses péchés, elle les reconnut et les confessa, annonçant que la Christ était le Sauveur. On voit, lorsqu'une âme s'ouvre à la grâce et que Dieu peut vraiment rentrer librement dans cette âme, on voit des choses extraordinaires. C'est pas toujours le cas, attention, malheureusement, il y a bien des cas où il y a parfois une personne qui refuse la grâce. J'ai eu plusieurs cas douloureux en retraite, des personnes qui vivaient aussi dans le concubinage comme ça, et qui viennent faire la retraite, plein de bonne volonté, Et puis ils se rendent vite compte, dans les préparations aux confessions, les premiers jours de la retraite, ils se rendent vite compte qu'il faut tailler dans la masse, qu'il faut tailler dans la chair vive, et qu'il va falloir tailler au fer rouge littéralement, parce qu'il y a une occasion de péché là qui est gardée, il y a une relation coupable, et il n'est pas question que cette personne puisse se confesser, faire sa confession générale, tant qu'elle vit dans le péché avec la femme du voisin. Et il y a un combat en général qui peut durer jusqu'à 2 jours. Alors parfois, avec la grâce du bon Dieu, ces personnes comprennent, prennent les résolutions qui s'imposent, déjà pendant la retraite. Il faut que ces résolutions soient évidemment suivies d'effets pratiques après la retraite. Soit malheureusement, j'ai eu quelques cas vraiment douloureux de personnes qui partent sans rien me dire. À ce moment-là, elles partent en général au deuxième jour de la retraite, avant les confessions générales, sans rien me dire. Parfois, elles me laissent un mot. Non, monsieur l'abbé, je ne peux pas rester, je m'en vais. Elle ne donne pas les raisons. Soit ces personnes ont une certaine honnêteté et viennent quand même me voir avant de partir en disant, voilà, monsieur l'abbé, je m'en vais. Pourquoi partez-vous? Il faut rester pour faire une bonne confession générale. Monsieur l'abbé, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Je ne suis pas capable de quitter cette occasion de péché dans laquelle je vis. Je sais que c'est pas bon. Je sais que ça m'entraîne en enfer. Mais actuellement, j'ai pas encore la force. Priez pour moi. Pour que je trouve cette force de quitter cette femme avec laquelle je vis. Et vous me croirez, si vous voulez, j'ai eu des cas comme ça, j'en ai eu un, je pense en particulier, bien sûr, je ne donne pas dedans, d'une personne qui est restée comme ça pendant plusieurs années dans le péché, qui ne pouvait pas approcher les sacrements, pas communier, une personne qui a beaucoup, beaucoup de valeur. Et il a fallu une dizaine d'années pour que finalement, à cause d'un changement, d'une grave épreuve, une épreuve très lourde dans sa vie, il a trouvé le courage de quitter cette liaison coupable dans laquelle il était, et il a pu retrouver le chemin de sacrement de pénitence. Et parfois c'est une maladie grave, parfois un accident, parfois des choses très lourdes. En général, le bon Dieu dans sa miséricorde frappe avec une certaine rudesse. Une rudesse, c'est quand les gens se retrouvent littéralement à l'hôpital avec l'annonce du médecin qu'ils seront morts dans quelques mois, que souvent ils reviennent à eux-mêmes, qu'ils appellent le prêtre, monsieur l'abbé, ça y est, j'ai compris. Le bon Dieu va me prévenir, dans un mois, dans 2 mois, je suis mort, je veux régulariser ma situation avant. J'ai donc décidé de vraiment couper cette liaison coupable dans laquelle je vis depuis 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, et de retrouver la grâce du bon Dieu. Et c'est admirable, mais ce n'est pas toujours le cas, vous voyez. On ne peut pas faire rentrer la grâce dans une âme qui n'est pas disposée à la recevoir. De me dire, mais le prêtre doit donner l'absolution. Il doit donner l'absolution au pécheur pénitent. Il ne peut pas donner l'absolution au pécheur impénitent. Le prêtre doit donner les sacrements à ceux qui sont proprement disposés à les recevoir. Malheur au prêtre qui donne le sacrement de pénitence à quelqu'un qui n'est pas disposé à le recevoir. Non seulement s'il le sait, si le prêtre est au courant, sait très bien que cette personne n'est pas disposée, non seulement l'absolution qu'il donne est invalide, donc son pénitent n'est pas pardonné parce que il garde une occasion prochaine volontaire de péché grave, mais le prêtre comme une faute grave, parce que le prêtre, au lieu d'être le ministre de notre Seigneur Jésus-Christ pour aider cette personne à couper dans la chair pour ne pas rester dans le péché, cette personne va rester dans le péché à cause de la faiblesse du prêtre. Et Dieu sait si c'est, je peux vous dire, Dieu sait si c'est difficile pour un prêtre de devoir refuser l'absolution. Moi, ça arrive, malheureusement, c'est des choses qui arrivent, c'est pas très fréquent, mais ça arrive. Comme c'est difficile pour le prêtre de refuser l'absolution. Surtout à des gens qui ont fait un effort déjà pour venir en le prêtre, parfois qui ont fait 1 heure, 2 heures de voiture pour venir se confesser, ils viennent se confesser, et puis on se rend bien compte tout de suite en posant quelques questions, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors on creuse un peu en posant quelques questions confessionnelles. Puis vite, on se rend compte qu'il y a un problème. Vous voyez ? Et je suis obligé de dire à cette personne, mais excusez-moi, mais cette personne avec laquelle vous vivez, c'est votre épouse légitime ? Oui, on est mariés. Vous êtes mariés devant Dieu ou devant Macron ? Ben, on est marié devant Macron, mais je l'aime. Oui, mais est-ce que vous êtes marié devant Dieu? Eh ben, j'étais remarié. Est-ce que vous êtes marié devant Dieu, monsieur? Est-ce que vous êtes uni par les liens du sacrement de mariage qui vous donne le droit de vivre avec cette femme et d'avoir des relations intimes avec elle? Est-ce que vous êtes marié devant Dieu? Et souvent, on a du mal à obtenir la réponse. Il faut parfois interroger, je dirais vraiment cuisiner les gens pendant plusieurs minutes parfois, pour finalement obtenir la réponse, non, j'étais marié déjà auparavant, elle était déjà mariée auparavant, nous étions déjà mariés auparavant qu'une autre personne, et monsieur l'abbé, nous vivons dans le concubinage, il faut couper. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Et monsieur l'abbé, je ne peux pas, vous me demandez quelque chose qui est impossible. On encourage, on prie. Et puis on est obligé de dire, écoutez, je suis désolé, mais vous allez revenir me voir, vous allez réfléchir à la question, revenir me voir quand vous aurez décidé de couper ce qui est coupable. Je n'ai pas le droit de vous donner l'absolution si je sais que la femme avec laquelle vous vivez maritalement est l'épouse du voisin. C'est un vol. Vous devez rendre au propriétaire ce qui est dû au propriétaire. Cette femme a un mari. Vous n'êtes pas le droit de vivre avec elle parce que ce mari, ce n'est pas vous, mais quelqu'un d'autre. Alors, parfois, ça se passe mal. Parfois, les gens nous accablent d'injures et partent en claquant la porte. Parfois, ça se passe relativement bien, en disant, bon, écoutez, mon père, je suis heureux que finalement, je vous ai dit la vérité. C'est vrai que je ne me sens pas encore capable de couper cette liaison coupable, mais priez pour moi. Et c'est ce qu'on fait. Et quand je suis obligé de renvoyer quelqu'un sans absolution, heureusement c'est relativement rare, mais ça arrive, j'essaie, je dégouline de gentillesse avec cette personne pour essayer de lui dire, écoutez, je vais prier pour vous, je vais faire pénitence pour vous, je vais offrir mes jeûnes pour vous, je vais offrir mes pénitences pour vous, pour que vous ayez le courage de faire ce qui doit être fait. Et je continue de prier. Et ça arrive, et c'est des grandes joies pour nous. Parfois, au bout de plusieurs années, ces personnes finalement reviennent. Souvent, on les envoie revenir à une retraite. Et là, ils nous disent, voilà, monsieur l'abbé, j'ai décidé. Je me sens fort maintenant avec la grâce du bon Dieu. J'ai décidé de couper cette relation coupable. Hein? Autre phrase des pères de l'Église. Abandonnant son ophore au puits, cette femme samaritaine ramène la grâce dans la cité. Elle semble revenir les mains vides. Mais en fait, revient avec la sainteté et la plénitude du Christ. Donc, elle laisse tomber l'amphore qui représente la volupté charnelle des profondeurs ténébreuses du cœur. Elle laisse tomber ces voluptés charnelles et revient avec ce qui apparaît comme les mains vides. Le monde va juger que cette femme qui vient de déposer son amphore pour puiser de l'eau, elle dépose l'amphore, elle va chercher les gens de la ville et les ramène au Christ. Quelqu'un de mondain va dire, elle revient avec les mains vides, elle a tout perdu cette femme. Non seulement elle n'a pas tout perdu, mais elle a tout trouvé. Donc elle revient avec la modestie, car dès que le Seigneur lui parla de ses péchés, elle les reconnut. Et les confessa, annonçant que le Christ était le Sauveur. Oui, on voit très bien cette femme. Dieu lui ouvre le cœur. Elle va reconnaître ses péchés. C'est la première étape. On peut pas avoir de contrition véritable, même de contrition imparfaite, de regret de ses péchés par peur de l'enfer, sans évidemment reconnaître qu'on est un pécheur. Puis les confesser, il faut l'accusation. La contrition ne suffit pas. Il faut l'accusation, sauf si vous avez reçu la grâce d'un acte de contrition parfaite qui efface tous les péchés, et même les peines temporelles des péchés déjà pardonnés, les peines du purgatoire. Mais ordinairement, il faut accuser ces péchés, sauf dans certains cas exceptionnels, une personne qui ne peut pas se confesser pour des raisons indépendantes de sa volonté, parce que tout simplement il n'y a pas de prêtre. Et bon, si elle obtient la grâce d'un acte de contrition parfaite, elle peut obtenir le pardon de ses péchés, mais ordinairement, il faut d'abord reconnaître ses péchés, première étape, confesser ses péchés, deuxième étape, et troisièmement, annoncer que le Christ est le Sauveur. Vous voyez, donc elle reconnaît ses péchés, les confesse, puis va dans la ville, elle retourne dans la ville. Et elle dit aux gens, venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Donc ils sortirent, retournent donc de la ville et ils vinrent auprès de lui. Donc on voit les différentes étapes. Vous voyez? On abandonne son amphore au puits, c'est-à-dire on abandonne sa vie de péché et on ramène la grâce dans la ville. Donc elle reconnaît ses péchés, elle reconnaît ses péchés et c'est symbolisé par le fait qu'elle laisse sur la margelle du puits sa cruche. Elle va les confesser, reconnaissant qu'elle vit dans le concubinage, puis annoncer aux gens de la ville que le Christ est le Sauveur. Venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Abandonnant son amphore au puits, elle ramène donc la grâce dans la cité. Elle semble revenir les mains vides, mais elle revient avec la sainteté et la plénitude du Christ. Elle alla comme pécheresse, mais retourna comme prédicatrice, apportant non de l'eau, mais le puits du salut. Oui, c'est magnifique. Donc elle part avec les chercher de l'eau, elle revient avec la modestie. Elle part comme pécheresse, elle revient comme prédicatrice de l'Évangile. Et ça, c'est tout le symbole de la confession. Quelqu'un rentre dans le confessionnal, l'âme noircie par le péché, accuse ses péchés, regrette ses péchés du fond du cœur par une véritable contrition, est prêt à réparer autant que faire se peut, et il ressort du confessionnal, l'âme toute illuminée. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça, j'ai vu ça en retraite. Des gens qui ne sont parfois qui n'ont pas fait de bonnes confessions depuis parfois des années, parfois 30, 40 ans sans bonne confession, parce que pendant 30 et 40 ans, ils ont gardé une occasion prochaine volontaire de péché, ou tout simplement parce que pendant 30 ou 40 ans, ils ont caché un péché grave. Ils ont accusé un péché il y a 30 ou 40 ans, mais ils n'ont pas accusé un détail qui était très important. Je donne un exemple qu'on prendrait par un exemple. Imaginez, c'est un exemple que je donne, mais c'est des choses qui arrivent, hein. Imagine une femme qui a commis deux avortements. Et puis après avoir commis deux avortements, elle rentre en elle-même, elle va accuser le péché d'avortement. Mais souvent, trompées par le démon, ces femmes sont capables de dire au confessionnal, « Mon père, j'ai commis le péché d'avortement. » Et il faut, à ce moment-là, que le prêtre pose les questions qui doivent être posées. Parce que quand une femme me dit au confessionnal, « Monsieur l'abbé, j'ai commis le péché d'avortement », le prêtre va comprendre, j'ai tué un bébé. Mais si elle a pratiqué cet acte pécamineux, cet infanticide, deux fois, il y a deux meurtres, pas un seul, mais deux. Donc, si le prêtre comprend qu'elle a commis un meurtre, un infanticide, et qu'en fait, la femme a utilisé ce terme générique, j'ai commis le péché d'avortement, parce qu'elle ne veut pas accuser le fait qu'elle a assassiné deux enfants, deux bébés, deux infanticides, à ce moment-là, sa confession est nulle, parce qu'elle a caché un meurtre. C'est pas la même chose de tuer une personne et de tuer deux personnes. Vous voyez? Et il peut y avoir des cas comme ça, ces personnes restent avec ce péché sur la conscience pendant des années, et finalement, c'est toute la beauté, la grandeur, la force des exercices de Saint-Ignace, avec la puissance des exercices de Saint-Ignace, qui n'oublions pas que les exercices ont été donnés par la Sainte Vierge Marie à Saint-Ignace, hein, dans la grotte de Morez, en Espagne, à cause de la puissance inhérente aux exercices de Saint-Ignace, puissance de la grâce, on a parfois des gens qui vous disent, voilà, monsieur l'abbé, Je commence ma confession générale par un péché que j'ai commis il y a 30 ans, je ne l'ai jamais accusé. Je ne l'ai jamais accusé il y a 30 ans, et j'ai eu malheureusement un passage difficile dans ma vie, et j'ai commis deux meurtres, j'ai tué deux enfants, deux bébés, deux infanticides, deux avortements, et j'en ai accusé qu'un seul. Eh bien, je vous assure, quand on a des grâces de ce genre, c'est des grâces énormes, hein, et pour la personne en question, et aussi pour le prêtre. Quand on se rend compte de ça, je dégouline de gentillesse avec ces gens-là pour essayer de les aider. Parce qu'il y a l'acte de bonne volonté, c'est héroïque de faire ça. Il faut avouer ce qui est, c'est pas facile d'avouer que pendant 30 ans j'ai caché une faute grave. Ça veut donc dire 30 ans de confession générale. Parce que souvent je leur dis, mais attendez, vous vous êtes confessé régulièrement pendant ces 30 dernières années? Ben oui, monsieur l'abbé, je me confesse toutes les semaines. Et vous commettez tous les dimanches? Oui, monsieur l'abbé. Donc 30 ans, pendant 30 ans vous êtes confessé toutes les semaines. 30 ans vous êtes communié tous les dimanches? Oui, monsieur l'abbé. En ayant caché, il y a 30 ans, un péché grave. Oui, monsieur l'abbé. Donc, 30 ans de confession générale. 30 ans de confession sacrilège. 30 ans de communion sacrilège. Et enfin, au bout de 30 ans, ça sort au confessionnal. Et il faut bien sûr, à ce moment-là, donner l'absolution. Et là, ce n'est pas le moment de sortir l'artillerie lourde, comme on dit. Au contraire, il faut, je dis aux gens, mais remerciez le bon Dieu, madame, si, ou monsieur, remerciez le bon Dieu. Si vous avez reçu cette grâce d'avouer ce péché. Monsieur l'abbé, j'ai caché ce péché, j'ai commis tous ces sacrilèges pendant 30 ans. Le bon Dieu est bon, plein de miséricorde. Il est plein d'une miséricorde infinie et il pardonne tout de suite aux pécheurs repentants. Est-ce que vous regrettez d'avoir commis ces deux avortements? Est-ce que vous regrettez d'avoir caché pendant 30 ans ce péché d'infanticide? Au confessionnal, Est-ce que vous regrettez toutes ces confessions sacrilèges? Est-ce que vous regrettez toutes ces communions sacrilèges? Oui, monsieur l'abbé, vous n'allez pas recommencer, hein? Ah non, monsieur l'abbé. Ego te absolvo, a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Je te pardonne tous tes péchés du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez en paix. Que le bon Dieu vous garde. Que le bon Dieu vous aide. Rattrapez ça. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour rattraper? Aimez. Aimez le bon Dieu. Rattrapez par l'amour. Vous avez offensé le bon Dieu pendant 30 ans, vous devez maintenant l'aimer deux fois plus qu'avant. Deux fois plus qu'avant parce qu'il vous a donné la grâce de la conversion. Donc on est parti, ces gens sont rentrés donc au confessionnal comme pécheresse et ils se retournent, ils reviennent comme prédicateurs, apportant non l'eau mais le puits de salut. Vous voyez ? Et ces phrases sont admirables. Il y a dans ce commentaire-là de la page 49 des phrases extraordinaires. Je vous répète ces phrases. Cette cruche que la Samaritaine va laisser au puits signifie la convoitise avec laquelle l'homme puise la volonté charnelle des profondeurs ténébreuses du cœur comme d'un puits obscur, c'est-à-dire de la vie, de la terre et des sens. Dès lors qu'elle croit en Jésus-Christ, elle doit renoncer au monde et en laissant son urne, montrer qu'elle renonce à la convoitise du monde. Elle s'est dépouillée de sa convoitise pour être plus libre d'annoncer, de prêcher la vérité et apprend ainsi à tous ceux qui veulent annoncer l'évangile à laisser d'abord près du puits l'urne de la convoitise. Celle qui était venue pour chercher de l'eau reviendra avec la modestie. Elle a ouvert son cœur à la véritable sagesse, elle fait peu de cas de tout ce qu'elle aimait auparavant, se hâte de s'en dépouiller. Dès lors, que le Seigneur lui a parlé de ses péchés, elle les reconnaît, elle les confesse, elle annonce que le Christ est le Sauveur. Abandonnant sa cruche au puits, elle ramène la grâce dans la cité. Elle semble revenir les mains vides, mais en fait revient avec la sainteté et la plénitude du Christ. Elle alla comme pécheresse, mais retourna comme prédicatrice, apportant non de l'eau, mais le puits de salut. La grandeur du sacrement de pénitence. Nous avançons avec les versets 31 à 34. Cependant, les disciples le priaient en disant « Maître, mangez !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc l'un à l'autre « Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé pour accomplir son œuvre. » Voyons un petit peu les commentaires des pères. Donc on est en bas de la page 49 sur le polycopier. Notre Seigneur parle ici du salut des hommes comme d'une nourriture pour nous faire comprendre le grand désir qu'il a de notre salut et le désir aussi vivement qu'il nous est naturel de désirer la nourriture. Dire, je désire la nourriture pour nourrir mon corps matériel, je dois désirer encore plus fortement la nourriture spirituelle pour nourrir mon corps spirituel. N'oublions pas qu'on a deux vies, et bien cher frère, on a une vie matérielle, il faut dormir, il faut se nourrir, il faut se vêtir, il faut entretenir son corps. Il faut le soigner quand il est malade. Mais on a une autre vie qui est infiniment plus importante parce que cette autre vie, c'est la forme de la première vie. L'âme est la forme du corps. L'âme, c'est substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté capable de connaître Dieu et de le posséder. Donc on a une deuxième vie qui se calque sur la première et qui est 10 fois plus importante que la première. Et je vous assure que si les gens s'occupaient de leur vie spirituelle avec le même entrain avec lequel et s'occupent de leur vie matérielle, ils seraient tous des saints depuis longtemps. Le problème, c'est que des gens sont capables de faire des choses extraordinaires pour leur vie corporelle, leur vie physique, et sont incapables de faire quoi que ce soit pour leur vie spirituelle, parce qu'ils n'ont pas compris que derrière leur vie physique, il y a une autre vie qui leur donne la véritable vie, la vie spirituelle. Remarquez que notre Seigneur ne révèle pas aussitôt cette vérité. Il fait naître le doute dans l'esprit de ses auditeurs pour qu'ils embrassent avec plus d'ardeur la vérité qui a été de leur part l'objet de sérieuses recherches. Oui. C'est-à-dire que les apôtres ne vont pas comprendre tout de suite. Si l'œuvre de Dieu est parfaitement accomplie par Jésus-Christ, elle était donc imparfaite auparavant. Et comment admettre l'imperfection dans l'œuvre de Dieu? L'accomplissement parfait de cette œuvre, c'était le perfectionnement de la créature raisonnable. Et c'est pour donner toute sa perfection à cette œuvre imparfaite que le Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous. Donc souvent, on se préoccupe des choses matérielles, on oublie les choses spirituelles. On se préoccupe du corps, on oublie les choses de l'âme. Craignez, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, ne craignez pas ceux qui peuvent atteindre le corps, craignez ceux qui peuvent atteindre l'âme. Ne craignez pas ceux qui peuvent faire des sévices sur le plan physique, craignez ceux qui peuvent atteindre vos âmes. Et c'est ça le drame actuel. Le drame actuel, il est là, c'est que l'homme moderne, si vous voulez, les enfants surtout, sont exposés constamment à des sévices spirituels épouvantables. Vous voyez, on oublie ces choses-là. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait chair. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait chair, c'est le mystère de l'incarnation qui donne sur le mystère de la rédemption. Et où pouvons-nous rencontrer ce Verbe de Dieu, c'est la deuxième personne de notre Sainte Trinité qui se fait chair pour habiter parmi nous dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie. C'est la Sainte Messe. La Messe, c'est ça. La Messe, c'est le renouvellement de cette incarnation. La Messe, c'est le renouvellement de ce mystère de la rédemption. La Messe, c'est le renouvellement du mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix le vendredi saint pour nous sauver tous. C'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Attention. Nous disons donc que l'homme avait été créé dans un certain état de perfection. Il en est déchu par sa faute. Et le Seigneur a été envoyé d'abord pour accomplir la volonté de celui qui l'avait envoyé. Et en second lieu, pour consommer l'œuvre de Dieu, afin que tout chrétien puisse parvenir à la perfection nécessaire pour participer à une nourriture plus solide. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de monter très haut. Vous voyez ? De monter très haut. C'est pour ça que les conversions sont difficiles, surtout aujourd'hui. Au Moyen-Âge, c'était relativement facile de se convertir parce que l'ambiance générale était catholique. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Parfois, les jeunes nous le disent, monsieur l'abbé, ce que vous réalisez qu'être catholique aujourd'hui, c'est dire non tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, non, non et non. C'est d'être une petite brebis blanche au milieu d'un millier de brebis noires. Et toutes les brebis noires vous demandent pourquoi t'es blanc, toi. Pourquoi t'as une couleur blanche? Pourquoi t'as pas une laine noire comme la nôtre? Pourquoi? Passons à la page suivante. Voir un petit peu le sens mystique de ces paroles. Page 50 sur le polycopier. Dans le sens mystique, après l'entretien que le Seigneur venait d'avoir sur la boisson de l'âme et ses divers enseignements sur l'eau toute spirituelle qu'il devait lui donner, il était naturel de parler à la nourriture. La Samaritaine à qui notre Seigneur demandait à boire ne pouvait lui offrir une boisson digne de lui. Les disciples qui n'avaient trouvé chez ces étrangers que des aliments bien ordinaires les présentent en Jésus en pressant de manger. Ne pourrait-on pas dire que les disciples craignent que le Verbe de Dieu n'étant point suffisamment soutenu par la nourriture qui lui est propre ne vienne à tomber en défaillance? Donc on voit très bien ici une allusion à au manque de foi des apôtres. Il voit trop l'aspect humain de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme. Alors, homme, on voit qu'il est homme. C'est facile, les apôtres pouvaient le toucher. Mais il n'est pas simplement homme, il est aussi Dieu. Donc il faut d'abord chercher le contact avec la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose pour notre âme. C'est très bien beau de s'occuper de notre vie physique. Il ne faut peut-être pas oublier qu'il y a une vie spirituelle derrière qui est infiniment plus importante. Et le monde moderne fait tout pour nous faire oublier que nous avons une vie spirituelle, que nous avons une vie divine en nous. N'oublions pas qu'une âme en état de grâce peut vraiment dire « j'ai le paradis en moi ». Une âme en état de grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vit dans cette âme, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, c'est la grandeur de l'état de grâce. Les apôtres proposent au Verbe, notre Seigneur Jésus-Christ, de se nourrir de tous les aliments qu'il trouve et qu'il lui présente, espérant ainsi le conserver au milieu d'eux, lui donnant la nourriture qui doit le soutenir et le fortifier. Mais les corps qui ne peuvent se soutenir que par la nourriture n'ont pas tous besoin des mêmes aliments, et de la même quantité d'aliments. Il en est de même des choses spirituelles. Donc dans les choses spirituelles, justement, la nourriture est différente. La nourriture physique, on s'en rassasie très vite. On mange trop, on est malade. Pour la nourriture spirituelle, c'est l'inverse. Plus on a cette nourriture spirituelle, plus on en veut. Parce que plus on s'élève, bien pas les trois étapes. D'abord, la connaissance de Dieu, première étape, qui monte à la compréhension de Dieu, deuxième étape, pour atteindre l'amour de Dieu, troisième étape. Parmi les âmes, il y en a donc, disent les pères, qui demandent une nourriture plus abondante. D'autres ont besoin d'aide. Quantité beaucoup moins considérable parce que leur capacité est différente et qui n'ont, pour ainsi parler, ni les mêmes proportions ni la même mesure. Chaque âme est différente. Chaque âme a une grandeur différente. Ce que le bon Dieu veut, c'est que notre âme soit remplie des grâces du bon Dieu. J'aime beaucoup la comparaison dont je vous ai souvent déjà parlé de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui compare chaque âme à un verre. Et des petits verres et des grands verres. Petit verre à liqueur, il est vite rempli. Un grand pichet à bière d'un litre, eh bien, il faut beaucoup plus de liquide pour le remplir. Eh bien, nous avons tous une âme de taille différente et quand je m'occupe des âmes, surtout dans les retraites,
J'ai parfois 5, 6, parfois 7 personnes en retraite. Chaque âme est différente. La première chose que j'essaie de deviner, c'est pas toujours facile, mais j'essaie au moins de le faire, c'est essayer de deviner la taille spirituelle en parlant de cette âme. Est-ce que j'ai une âme devant moi qui a la taille d'un verre à apéritif, d'un verre à liqueur, ou est-ce qu'au contraire, j'ai devant moi une âme beaucoup plus grande, beaucoup plus généreuse qu'à la taille d'un grand pichet à bière, est évident. Donc, je dois faire très attention à celle qui a beaucoup plus reçu, qui a une âme beaucoup plus grande. Il va avoir besoin de bien plus de choses que la toute petite âme. Voyez, l'important, c'est de remplir la volonté du bon Dieu. Si j'ai une âme qui est de la taille d'un verre à apéritif, un tout petit verre, du moment qu'elle est pleine de la grâce du bon Dieu, j'ai rempli mon devoir d'État. Dieu est content et m'amènera au ciel. Par contre, si j'ai une âme grande comme un pichet à bière d'un litre et que je n'ai que le fond de ce pichet à bière qui est rempli parce que je me dis que je peux très bien me contenter de la grâce qui contient dans un petit verre à liqueur, ça ne suffit pas parce que j'ai un grand verre. Et là, le bon Dieu me dira, allez, éloignez-vous de moi maudit, allez au feu éternel préparé pour Satan et pour ses anges. Au contraire, si mon âme est remplie, même si j'ai une toute petite âme, même si j'ai un tout petit verre à liqueur, du moment que c'est plein, notre Seigneur Jésus va pouvoir venir me dire, venez les bénis de mon Père, possédez le royaume de Dieu qui est préparé pour les anges, pour les élus et les anges. Il faut dire la même chose des discours et des pensées de haute perfection qui ne peuvent convenir indifféremment à toutes les âmes. Les enfants nouvellement nés désirent le lait spirituel et pur qui doit les faire croître pour le salut. Donc certains, il faut les nourrir. Saint Paul a un passage magnifique là-dessus. Pour certains, il faut les nourrir avec le lait de la doctrine. Ils ne peuvent pas encore prendre de nourriture solide. Ils sont trop petits, trop jeunes dans la foi. Au contraire, quelqu'un, un bébé qui grandit au bout d'un certain temps, à un certain moment donné, il peut commencer à prendre la nourriture solide. Il va commencer par des purées, des choses comme ça. Puis finalement, va pouvoir commencer à manger normalement ce que nous mangeons. Mais pas au début. Pas au début. Ceux qui sont parfaits demandent une nourriture plus solide. Notre Seigneur exprime donc une vérité certaine en disant « J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. » Et tout homme qui se trouve placé au-dessus des infirmes et qui ne peuvent se nourrir des mêmes considérations que les âmes fortes peut s'appliquer cette même parole. Donc Dieu demande en fonction de ce qu'il a donné. S'il a peu donné, il donne peu. S'il a beaucoup donné, il demande beaucoup. Au sens moral, voilà ce que disent les pères. Que les chrétiens, surtout les prédicateurs, apprennent du Christ que la nourriture spirituelle doit être l'obéissance et le zèle pour les âmes. On retrouve toujours les mêmes vertus, la grande vertu d'obéissance. Il n'y a pas de sanctification possible sans obéissance. La charité, c'est la vertu d'obéissance. On peut vraiment dire que le mot charité est un synonyme du mot obéissance. Beaucoup de nos fidèles ont mal, il faut comprendre ça. Parce qu'il mélange tout. Il mélange la charité naturelle et la charité surnaturelle. Qu'est-ce que c'est que la vertu de charité ? La vertu de charité, c'est la vertu par laquelle j'aime Dieu. Et comment fait-on pour aimer Dieu ? Comment prouve-t-on à Dieu qu'on l'aime ? Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui va recevoir la grâce du bon Dieu, qui va posséder le royaume des cieux. C'est celui qui écoute la parole du bon Dieu et qui la met en pratique. Et comment peut-on écouter la parole du bon Dieu et la mettre en pratique ? Tout simplement, il vit en état de grâce. Donc la véritable charité, c'est l'état de grâce. Pas d'état de grâce, pas de charité. Attention à ça, ne pas oublier ça qui est absolument, absolument fondamental. Donc le prédicateur, le prêtre, doit apprendre aux fidèles que la vertu, la nourriture spirituelle, c'est d'abord la vertu d'obéissance. Malheur aux gens qui n'ont jamais appris à obéir. Et c'est terrible parfois de voir des enfants qui n'ont manifestement jamais appris à obéir. On voit ça tout le temps dans les rues. Les supermarchés, combien de fois j'ai vu ça? Des gamins qui sont impossibles, les mères qui disent rien. Ou la mère qui donne un ordre, l'enfant désobéit, en fait qu'à sa tête, répond à sa mère, et qu'est-ce que fait la maman? Elle le couvre de baisers. Au lieu de reprendre, d'aider cet enfant à se remettre dans le bon chemin, elle couvre son enfant de baisers. C'est des baisers de mort. Donc l'obéissance et le zèle pour les âmes sont deux vertus qui soutiennent la vie de l'âme, disent les pères. Comme une nourriture, ces vertus renforcent les pouvoirs de l'esprit. L'obéissance et le zèle pour les âmes disent les pères de même que la nourriture va faire grandir l'enfant pour qu'il devienne un homme complet. Ainsi, ces deux vertus, l'obéissance et le zèle pour les âmes, nous font grandir jusqu'à atteindre l'état viril de force spirituelle. Et l'état viril de force spirituelle, c'est tout simplement la vertu de charité. la vertu de charité. Pas de vertu de charité possible sans justement ces vertus qui amènent à la vertu de charité. On ne peut pas atteindre le sommet de l'escalier sans prendre les marches. Un escalier avec, je sais pas, 25 marches, il faut commencer par mettre le pied sur la première marche. La première marche, c'est toujours l'obéissance. Et c'est pour ça que les gens modernes ont tellement de difficultés. Parce que l'obéissance, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne veulent plus obéir. Hein? Je ne servirai pas. C'est ce qu'a hurlé Lucifer. Je ne servirai pas. Non serviam. Sans l'obéissance, on ne peut rien faire. Absolument rien faire. Mais on voit très bien dans la vie spirituelle, dans la vie religieuse, la première vertu qu'il faut apprendre, c'est l'obéissance. L'obéissance. On reçoit un ordre comme jeune novice au séminaire, c'était comme ça, on reçoit un ordre. Il y a quelque chose qui bouillonne en nous parce qu'il faut apprendre à obéir. Et au lieu de la première tentation qu'on a, c'est de dire « Mais pourquoi moi ?» Vous voyez ? Et c'est très dur. Et surtout très dur pour ceux qui ont eu des grosses responsabilités. Parfois des jeunes qui rentrent au séminaire, qui avaient déjà eu une vie professionnelle assez importante. Des jeunes, par exemple, qui avaient fait des grandes écoles, qui avaient un métier de cadre, parfois même déjà à 25 ans, hein, parfois des métiers, ou 30 ans, qui avaient des métiers de cadre, et qui donnaient des ordres. Ils rentrent au séminaire, il faut obéir, il faut apprendre à obéir. Même pour les petites choses. On avait un frère qui donnait, par exemple, tous les mercredis après-midi, pour les travaux manuels, il avait une liste avec les noms des séminaristes de première année qui venaient de rentrer, et puis il donnait les travaux manuels, et vous irez nettoyer les toilettes, et vous irez vider toutes les poubelles du séminaire, et vous allez aller passer la serpillière dans le grand hall d'entrée, et vous allez nettoyer la chapelle de fond en comble, et puis après il venait vérifier. Et c'était pas facile, surtout pour des gens qui avaient été habitués à donner des ordres pendant des années et des années, et bien de recevoir des ordres de personnes qui avaient humainement parlant, eu un degré d'éducation sociale tout à fait inférieur à celui qu'ils avaient atteint eux-mêmes. Et il y en a qui ne tenaient pas le coup. Il y en a qui ne tenaient pas le coup. Vous n'arrivez pas. Vous voyez ? Même en retraite, on le voit. Il m'est arrivé d'avoir en retraite, tant ça ne dure que 5 jours, hein. J'ai eu parfois des chefs d'entreprise qui sont venus faire les retraites. Ça m'a frappé. Et certains me l'ont dit, monsieur l'abbé, pour savoir à quel point c'est dur. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai 250 ouvriers sous mes ordres, je donne des ordres. Les ouvriers obéissent, c'est pour ça qu'ils sont payés. Ils sont payés pour obéir, ils obéissent. Et là, monsieur l'abbé, j'arrive, et je vois un prêtre qui est plus jeune que moi, peut-être, et qui me donne des ordres. Voilà, on se lève, et on va à la chapelle. Et puis, attention, à 6h ce soir, il y a l'office du chapelet, tout le monde doit être au chapelet. Et on sonne la cloche, et vous obéissez à la cloche, et vous venez dès que vous entendez la cloche sans attendre. Et puis, à 7h30, il y en aura le repas du soir. Et ensuite, on aura la prière du soir ensemble. Et puis, on aura la conférence qui expliquera les points de méditation de demain. Tout le monde doit être là. Puis, quand il y a un quart d'heure, je vais sonner la cloche. Et parfois, s'il faut, je suis obligé de leur dire, monsieur, il faut être à l'heure. Je n'ai pas le temps d'aller courir, perdre du temps, aller chercher les retraitants qui sont en retard. Il faut être à l'heure, s'il vous plaît. Et il y en a qui me disent, monsieur l'abbé, il ne faut pas savoir à quel point c'est difficile. Vous voyez ? Donc, il faut demander cette grâce, ces deux grâces, l'obéissance, l'esprit d'obéissance, le zèle pour les âmes. Je vous en supplie, les parents qui écoutent ces conférences, apprenez à vos enfants à obéir. Quel malheur, quelle catastrophe pour un enfant qui n'a jamais appris à obéir. Il sera incapable d'être un adulte et de rester en état de grâce 5 minutes comme adulte. Parce que vous ne l'avez pas formé. C'est comme quelqu'un qui... Les parents qui ne forment pas leur enfant à l'obéissance sont comme un chef de guerre qui envoie des soldats au combat et qui n'ont pas de cuirasse, pas d'armure, pas d'arme offensive, pas d'arme défensive. Ils partent les mains nues avec des sarbacanes pour se battre contre des bazookas. Comment voulez-vous qu'ils fassent quoi que ce soit? Ils ne peuvent rien faire, ce qui leur manque essentiel. Donc il faut vraiment demander, mes bien chers frères, demander ces grâces qui sont tellement importantes. Voilà, nous allons arrêter là, parce que ça fait déjà une heure que je vous parle. Et la prochaine fois, nous essaierons peut-être de terminer le chapitre 4 de Saint Jean. On verra. je sais pas, il faudra peut-être encore au moins un ou deux cours pour se terminer, chapitre 4 Saint Jean. Vous voyez très bien que l'évangile de Saint Jean est un évangile beaucoup plus riche que les autres. C'est qu'on va doucement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en suivant les pères de l'Église. Terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Une petite note concernant les retraites. Je vous rappelle, les retraites, la retraite de Semaine Sainte est complètement pleine. Donc celle du 11 avril au 17 avril, j'ai plus que plein même, j'ai 7 personnes. J'étais obligé de mettre deux époux qui viennent faire la retraite ensemble dans la même chambre. Parce que j'ai plusieurs chambres dans les gîtes que je loue pour les retraites qui ont deux lits. Par contre, il y a encore des places aux autres retraites. Je vous rappelle les dates. 25 avril au 30 avril, 16 mai au 21 mai, 6 juin au 11 juin, 12 septembre au 17 septembre, 3 octobre au 8 octobre. Que mon Dieu vous bénisse tous.